pour une poignée de gagneurs, le podcast.
¿Cómo estás?
Konnichiwa, gozaimasu.
Oh, prego. No, moshita.
Barbu desu.
Jimemashite, dozorushiku.
Eh bien, bonsoir à tous. Non, ce n'est pas un podcast international. Et oui, je commence, tu t'attendais pas à ça. Nous sommes en direct. Nous sommes ici pour la nouvelle actu de la semaine 14 de la saison 6. Et avec moi, j'ai les meilleurs chasseurs du monde. Bonjour Gab et bonjour Barbe.
Salut. Donc non, chasseur de très très loin. Moi, les chasseurs, je préfère les chasser, tu vois. C'est une sale espèce.
Il y a le bon et le mauvais chasseur.
C'est vrai, il y a le bon et le mauvais chasseur. Mais comment on les reconnaît, on le sait toujours pas. Mais bon, voilà.
Est-ce que vous avez chassé des œufs un peu ce week-end, quand même?
Ouais, chassé des œufs ce week-end.
J'en ai mon toutou chassé les œufs, déjà, c'était très bien.
Ouais, je les ai chassés avec la bouche et le nez.
J'ai fait ça tout le week-end. J'ai fait 3 chasses aux œufs, j'en mange tout le temps depuis samedi.
Ouais, manger, ça va vite, hein, ça va. Chasser,
c'est... Ah ouais, c'est ça.
Je crois que c'est plutôt des Pokémon, toi, plutôt que des œufs.
Je rejoue à la 3DS à Pokémon Ultra Soleil, c'est très bien. Je chasse aussi.
Ouais, Ultra Soleil, c'est très très bien, Ultra Soleil.
Mais c'est vrai qu'il y a les œufs aussi à faire éclore, pareil. On peut retourner sur les œufs avec Pokémon.
Ah, mais oui, et avec...
Allez, on va commencer l'actu, messieurs, et bonsoir Scal qui est de nous rejoindre dans le chat, parce que oui, vous pouvez nous rejoindre tous les 15 jours en direct sur l'émission, en direct sur Discord, pour nous écouter et interagir. Renseignez-vous sur les événements ou du Discord pour savoir les dates d'enregistrement. Et donc ce soir avec Gab et Barbe, nous avons parlé de l'Epic Game Store et du Game Pass dans la grosse actu. Vous allez voir un petit peu, il y a pas mal de choses à dire en liaison avec les studios indépendants. On va développer tout ça. Les rumeurs, je vais vous parler de la future Xbox et Barbe va vous parler de la future console de chez Sony. Donc une actu très next-gen qui va enfin arriver chez nous.
Les deux grandes écoles. Sony et Xbox, qui vont enfin se confronter sur un terrain d'égalité, ou pas.
Pas de coup de gueule, pas de sujet des auditeurs, quelques actions en vrac et une sortie de chroniqueur pour l'instant. Tout un programme, voilà. Allez, c'est l'heure.
Pour une poignée de gamers, le podcast.
C'est parti pour la grosse actu. Donc, Gab, parle-nous un petit peu de ce qui s'est passé avec les indépendants et avec l'Epic Game Store et le Game Pass. Qu'est-ce qui n'est pas ça?
Bah, grosso modo, pendant un certain temps, on entendait dire que les développeurs étaient contents de bosser avec Microsoft autour du Game Pass, que c'était gagnant-gagnant, globalement. Microsoft récupérait des exclus. Et les éditeurs ou les développeurs recevaient une somme d'argent correct, qui permettait de financer leur jeu. Ou alors, il y avait différents types de modèles, mais on avait compris que Microsoft était globalement souple sur les modèles, de sorte à attirer le maximum de développeurs. De la même manière, Epic, en ouvrant l'Epic Game Store, a toujours cette philosophie de proposer un jeu gratuit tous les mois, ou toutes les semaines. Et puis il y avait aussi les phases de Noël ou exceptionnelles dans l'année où ils proposaient plein de gros jeux sur une période très courte. Sauf que l'heure de l'aubaine de ces plateformes-là, qui sont le Game Pass et l'Epic Game Store, arrive un peu à sa fin, comme un peu ce qu'on peut voir en termes de mutation ces derniers temps dans le marché du jeu vidéo. D'une part, Epic, leur plateforme, Epic Game Store prend pas, malgré tous ces cadeaux. Alors, il y a plein de raisons à cela, mais là, le but, c'est pas non plus de faire le procès de l'Epic Game Store, c'est de voir que la conséquence, c'est que Epic est beaucoup moins prompt à verser de grosses sommes d'argent pour avoir des exclusivités, mais également pour avoir des jeux gratuits sur sa plateforme, ce qui peut aussi expliquer certaines récurrences dans certains types de jeux qu'on peut voir sur la plateforme ces derniers temps. On revoit des jeux qui sont déjà passés en gratuit, ou des tout petits jeux indépendants, pas forcément passionnants, Mais voilà, ça répond aussi à cette problématique de la plateforme qui prend pas et l'envie de moins investir dans ces jeux gratuits. De toute façon, Epic avait annoncé, je crois, courant janvier, que la plateforme allait passer sur sa V5, puisqu'ils étaient sur la V4, et avec toute une nouvelle politique autour de comment ils allaient financer leur moteur 3D, leurs jeux vidéo et également leur métaverse avec Fortnite. Donc, je
oui,
pense
parce que... Pour, c'est pas le moteur 3D, pour ceux qui ne savent pas, l'Epic Game Store, c'est le Unreal Engine 5, ça leur appartient. Mm. Quand même, pas rien. Et oui, Peter, tu disais un petit peu aussi là, la régression un petit peu des offres, des dons au jeu. C'est vrai que ça a été vraiment... on avait parlé, on avait beaucoup parlé quand il y avait le procès entre Apple et Epic vis-à-vis de Fortnite. Il y avait eu des révélations qui étaient passées. Tel studio avait eu des centaines de milliers d'euros pour une exclue sur les Big Game Store. Enfin, c'était des montants faramineux. Donc, c'est vrai que ça... Comme tu dis, l'Epic Game Store ne prend pas si bien que ça par rapport à ses concurrents Steam et autres. Et donc là, ouais, ils doivent peut-être un peu se restructurer, voir avoir un peu leur coût. Mais ceux qui en pâtissent, c'est un peu les studios indépendants, ouais.
Bah, là, ça en pâtit, mais encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est que là, chez Epic, il y a eu des gros départs, dont... Alors, je vais peut-être dire une bêtise, c'est Sergey Galyonkin qui était un des créateurs de la plateforme Epic Game Store, qui a quitté le navire début octobre. Parce que justement, ils se retrouvaient pas en phase avec ce que Epic convoitait de faire avec la plateforme. Donc il y a un réel changement de philosophie de la part d'Epic vis-à-vis de ce qu'elle veut faire de son Game Store, vis-à-vis de ce qu'elle veut faire avec Fortnite, mais également ce qu'elle veut faire avec son moteur 3D. Donc là, il y a un gros changement au niveau de l'écosystème, ce qui se ressent durement vis-à-vis des développeurs qui sont du coup beaucoup moins bien rémunérés. Et quelque part, c'était bien pour eux parce que ça leur permettait aussi de pouvoir financer des projets en amont, trouver des modes de financement et déjà se dire bah, même si notre projet ne marche pas, on a en partie rentabilisé notre développement par ce financement. Bon, c'est discutable, hein, mais voilà. Et Microsoft, pareil, soit ils proposaient une certaine somme au moment où le jeu était terminé, soit en amont, soit... Et là, pareil, là, côté Microsoft, on se rend compte que les vannes sont en train tout doucement de se couper. Alors, tout doucement parce que et toutes les vannes ne sont pas coupées encore, mais la facilité de pouvoir trouver des modes de paiement avec Microsoft, mais également aussi la souplesse que vous pouvez trouver avec Microsoft, elle n'existe plus. On sent qu'ils font des choix, et ce qui était beaucoup moins vrai par le passé. Et du coup, c'est tous les petits développeurs indépendants qui ont pris de plein fouet face à cette mini-crise, puisque les financements sont de plus en plus difficiles à trouver et la garantie du succès sans ces plateformes est aussi compliquée.
Mais est-ce que tu as quand même un studio qui forcément compte un peu ou beaucoup sur ces revenus-là? Je fais un petit parallèle rapide quand on avait parlé du... c'était Unity qui avait fait un changement, vous allez comprendre ce que je veux dire, le financement des jeux, faire payer l'installation pour certains studios, c'était c'était le bout du chemin, quoi. Faire ce genre de choses là à des studios indépendants qui n'ont pas les reins très solides, c'est très compliqué. Et là, le parallèle que je veux faire, c'est qu'il y a certains studios qui vont compter sur des revenus par l'Epic Games Store, par le PS Plus, par le Game Pass pour rentabiliser leurs jeux rapidement. Il y a quand même certains jeux où ils parlaient qui étaient avec ces rentrées d'argent qui étaient rentables dès le jour 1. Non, c'est plus forcément le cas. C'était pas non plus la grande majorité. Hein.
Mais il y en a. Là, surtout, ce qui se pose comme question, c'est aussi pendant un temps, ce mode de consommation des jeux vidéo par abonnement était hyper attractif. On le disait. Pour l'instant, c'est gagnant-gagnant aussi bien pour celui qui prend l'abonnement que celui qui développe. Mais le risque à terme, c'est que si, effectivement, à force d'engranger les abonnements, ces plateformes-là aient un poids tel dans l'industrie du jeu vidéo qu'elles vont pouvoir dicter finalement quel jeu pourra sortir ou pas. Et là, on se rend compte que ça, c'est en train de prendre forme. Alors, on n'en a pas parlé là, parce qu'on a mis surtout le focus sur Epic et sur le Game Pass, parce que c'est vraiment les deux plateformes qui étaient une grosse source de cash pour les petits éditeurs. Mais il y a également l'Apple Arcade, qui, lui, par contre, subit, on en a déjà parlé, une perte sèche d'abonnés, et qui annule coup sur coup tous ses développements avec tous ses éditeurs et ses développeurs. On avait parlé aussi, et ça faisait fuir les développeurs. Mais voilà, donc il y a quand même une tendance actuelle de ces plateformes-là à ne plus participer au fonctionnement de l'industrie.
Ah oui, et puis là, on a certains studios. Là, il y a le studio Megacrit, ceux qui ont fait Slay the Spire. Il y avait un des fondateurs qui avait parlé, qui disait eux, ça va, chez leur studio, ils s'autofinancent, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Il dit, si on était à compter beaucoup sur les revenus de ces stores-là, j'aurais très 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 peur en ce moment pour mon studio. Pour dire, studios qui, je pense, ne doivent pas trop rigoler avec des projets en cours qui sont quand même chers de faire un jeu vidéo, si derrière tu vois tes revenus à droite à gauche pour financer ton jeu vidéo qui s'amenuise de bout en bout, ouais, je pense qu'il y a certains qui vont un petit peu tirer la sonnette d'alarme sur ce genre de choses.
J'en profite il y a Mister Bordeaux qui fait une remarque qui est très pertinente. Il dit que il y a aussi le problème de trop d'abonnements. À une époque, il y avait que l'abonnement du Game Pass, on va dire. Puis il y a Sony qui arrivait avec leur abonnement aussi. Puis Netflix propose aussi des jeux dans leur abonnement. Puis Amazon propose aussi des jeux dans leur abonnement. Bah, voilà.
Ubisoft Plus fait son abonnement. Et puis, voilà. Il y a des trucs Apple Arcade. Oui,
voilà. Donc, tout devient comment ça. Il y a aussi cette concurrence qui est là, qui crée une surcharge en termes d'offres. Et c'est vrai que le risque aussi de ces choses-là, c'est de faire. De surcharger les clients d'abonnements inutiles et dispensables, finalement. Et...
Ouais, et puis c'est aussi que à l'époque où il y avait 2-3 services d'abonnement pour 100 personnes, donc 33% chacun, du coup, il y a machin qui prend 5% des personnes. Enfin, les gens vont se désabonner pour aller ailleurs, et puis du coup, il y a certains groupes qui vont perdre des abonnés, d'autres qui vont gagner. Ça se balade un peu. Et c'est vrai que cette sur-offre d'abonnement, normalement, les gens, ils disent, ils n'auraient plus à suivre, quoi.
Moi, je sais plus, on en avait discuté, mais des fois, je préfère acheter un jeu qui me plaît plutôt que de prendre un abonnement pour y jouer quelques semaines. Et je me sens plus serein juste d'avoir le jeu qui me plaît et auquel je veux jouer que d'avoir un catalogue de jeux aussi qui me submerge, en fait, de choses possibles de jouer.
Tout dépend de notre consommation des jeux vidéo aussi. Chaque nous, on joue pas mal, donc c'est vrai qu'il y a des abonnements. Alors, moi, j'ai que le Game Pass. Et ça permet d'essayer beaucoup de choses.
La formulation, du coup, c'est plutôt acheter un accès à un jeu, parce que le jeu, il t'appartient même plus maintenant.
Oui, t'achètes un droit d'accès au jeu, ouais.
Ouais.
Mais ça le démat. Alors,
en vrai, Steam bafoue complètement le truc vis-à-vis des développeurs. T'as la licence à vie. Mais GOG, eux, ils ont même plus de DRM. Donc, t'as quand même des plateformes qui t'assurent quand même d'avoir ton jeu. Mais ça existe, comme tu dis, on paye un droit d'accès à la licence. On paye. Ce que fait Sony et Microsoft, par ailleurs. Donc, voilà,
et c'est vrai que ce que dit Scal et ce qu'a dit Mr. Bordeaux dans le chat, c'est est-ce qu'il y a certains studios qui vont pousser pour qu'un jeu sorte plus tôt, pousser pour le jeu arrive très rapidement, donc ça va faire engendrer des abonnements rapides. Là, le cas est cité par Scal, c'était Redfall, qui clairement, on le sait, qu'il est sorti trop tôt. Le jeu est sorti tout cassé, et derrière il est beau sortir les RAM, faire des patchs dans tous les sens, ou des mises à jour, ça n'a jamais rattrapé le truc. Mais le jeu, je pense que Microsoft, dessus, ils ont dû dire, ce jeu-là, il doit sortir à tel moment, parce qu'on a c'est le moment pour qu'il sorte, mais même s'il n'est pas fini, et ça... Est-ce que ces plateformes-là vont avoir ce poids-là de dire au studio, votre jeu doit sortir à telle date? Le rapport de force est peut-être un peu inversé sur ce genre de choses-là.
Alors, en tout cas, nous, c'est des remarques qu'on fait depuis le début de la génération, c'est que Microsoft peine à sortir des jeux, et à sortir des jeux excellents. Sony tout autant, hein, y a pas de... même si Sony a quand même eu quelques réussites, hein, dont récemment Hellgate 2. Donc bon, c'est pas Hellgate. Putain, je...
Helldivers.
Helldivers 2, ouais. Ça, on va en parler après d'Hellgate 2. Donc ouais, Helldivers 2, donc c'est vrai que là, Microsoft est aussi dans une situation où eux manquent de réussite, là où Sony a un peu plus de réussite. Et même si Sony n'ont pas tant de grosses réussites, ça, ils arrivent à se rattraper avec leur studio tiers. On peut penser à Squaresoft ou bien d'autres, qui leur sortent quand même quelques pépites sur leur console. Donc, je pense que Microsoft ont une autre situation aussi qui font que ils ont besoin que de bons jeux sortent sur leur console. Et je sais pas s'ils ont la formule là pour ça. J'ai l'impression qu'ils ont un peu perdu en cours de route.
Oui, les aficionados qui prendront toujours les jeux parce que c'est les jeux de la console.
Aussi.
Mais il y a ça qui existe toujours. Avec un petit billet de confirmation en disant « Ah non, ça c'est sorti dans mon équipe préférée, donc c'est un bon jeu. »
Ah, il y a toujours un peu ça.
J'ai dit Squaresoft, c'était Square Enix, effectivement. Et on a Mister Bordeaux qui n'arrête pas de me rattraper sur le chat. Je suis en roue libre ce soir, d'ailleurs, c'est pas pour rien que Rolling Pendant, je suis un petit peu fatigué.
Ah, tu devais faire ça parce qu'on a sorti un rétro PPG sur FF7 et plus longtemps de Squaresoft.
Ouais, peut-être, on a parlé. Non.
Il est resté ancré.
Et puis, c'est vrai que Squaresoft, ça reste la grande époque. Donc, même si en ce moment, Square. Voilà. Bon, on va pas tergiverser autour de Square, mais quoi qu'il en soit, effectivement, face à l'offre, face à pas mal de choses, bah, c'est un modèle économique qui a ses limites et qui montre déjà ses premières limites. Je voulais faire un édito d'ailleurs autour de la concentration des studios, qu'on fera sûrement dans deux semaines. Mais ça me fait vraiment écho, cette concentration de studios qui pose certaines limites aussi là dans ce cadre-là. Donc voilà. C'est plutôt inquiétant pour l'avenir du jeu vidéo.
Ah bah oui, ça c'est. Il faut bien voir comment ça peut évoluer, mais je pense que ça. Là, tout ce qu'on voit dernièrement entre le sujet dont on parle, les rachats, les reventes de studios dont on reparlera dans deux semaines, et après tout ce qui va être licenciement, on est déjà rendu à 8000 personnes dans ce premier trimestre, ça plus ça plus ça. Je pense que c'est un studio qui commence à pas être trop fier là, c'est-à-dire pas avoir une très très grosse visibilité.
C'est des conséquences aussi de rush pour terminer un jeu dans les temps, c'est qu'on use les équipes et les équipes elles ont, c'est pas le moment de kiff quoi qu'il arrive.
Ah, il y a ça et puis il y a aussi un autre phénomène là qu'on n'a pas abordé, il y a aussi de plus en plus de joueurs qui se concentrent uniquement sur un seul et unique jeu. Avec des jeux à service comme Fortnite, Genshin Impact, ou, bah, pour nous en parler, mais World of Warcraft, pour les plus anciens.
Qu'est-ce que
ça? Je sais pas ce que c'est. Ou il y en a certains qui laissent leur vie dedans et qui n'ont plus de temps pour jouer à d'autres jeux. Donc, faut pas oublier que de plus en plus de jeux t'incitent à ne passer ton temps que dessus, que sur leur jeu.
Ça s'appelle des mécaniques d'addiction et de rétention, mais oui, c'est clair qu'il y en a beaucoup dernièrement, ouais. Pour ceux qui se demandent des mécaniques d'addiction et rétention, ça va être par exemple, tous les jours on va poser une quête journalière pour gagner 50 gemmes. Il faudra se connecter, il faudra faire la quête, il faudra jouer deux parties. Voilà, c'est le jeu vous incite à vous reconnecter, à revenir.
Et faire une série sans fin,
ah, bien sûr.
Ouais, votre série. Ça.
Mais tout votre ça, série
cassée, recommencer.
Ouais. Vous n'avez pas fait le jour 90 sur 100, recommencer à 1.
Une partie des 2% des gens qui sont arrivés à ce stade-là, continuez.
Et pour seulement 5€, vous pourrez avoir le skin.
Bon, bref, voilà, on a
fait le tour de bien pourri. Mais tout cet édito là sur les rachats de studios et rassemblements de personnes de studios, on va les développer dans 15 jours.
Ce qui est marrant, c'est que là, on se rend compte qu'en très très peu de temps, les choses changent à une vitesse incroyable. C'est-à-dire que on est en train de dire là, c'est un discours qu'on n'avait pas il y a 6 mois. Donc. C'est quand même qu'il y a une mutation en très très peu de temps et on sent mais la tendance qui et on sent Microsoft complètement paumé dans ce qu'ils font. Hein. Par exemple, là je sais plus, il parlait à un moment donné de se dire ah hey, tiens et si on incorporait les boutiques Epic, les boutiques Steam sur nos Xbox. Alors oui, ok, pourquoi pas. mais ça veut dire c'est quoi l'avenir, quoi. Donc il y a vraiment une perte de sens aussi, je pense.
Perte d'identité, ouais.
Ouais.
Yes. Eh bien, on va parler d'eux. On va passer au coin des rumeurs, messieurs, c'est bon pour vous ?
C'est parti.
Bon. Allez, le coin des rumeurs.
Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
Alors, le coin des rumeurs, comme vous avez dit tout à l'heure, on va parler de la future, future nouvelle Xbox et future nouvelle PS5 Pro. Très rapidement, je vais commencer par la Xbox, qu'on a moins à dire que ce qu'on va dire sur la PS5 Pro, parce qu'on en sait moins, parce que c'est de la rumeur. Là, il s'est passé qu'on a eu une petite fuite, alors avérée ou pas avérée, moi ça me paraît un petit peu bullshit, d'une Xbox Series W, je ne sais pas, qui serait blanche et sans aucun lecteur. Donc ça, jusque-là, c'est pas extrêmement étonnant. Qui aurait la même forme que la X, avec les mêmes connectiques. Alors c'est pas là, c'est un peu tiqué, ça me paraît un peu bizarre qu'il garde le même design.
Bah, elle est jolie.
Oui, elle est jolie. Elle est un peu monolithe comme ça, simple.
Simple, c'est bien basique, ça rentre dans un meuble. Moi, je la trouve vachement bien par rapport à la PS5.
Ben, moi aussi, hein, clairement. Donc, si la rumeur se confirme, ça veut dire qu'on partirait sur une console next-gen full des maths. Est-ce qu'ils vont faire comme la PS5 Slim, c'est-à-dire un lecteur dévié qu'on branche en USB, je sais pas. Je pense que s'ils prennent le virage des maths, ils prennent à 100% chez Xbox. On en reparlera. Et les rumeurs bis là-dessus, c'est Phil Spencer qui l'a donné interview, a un petit peu redit son envie d'avoir une Xbox portable qu'il n'a jamais eu. Ils n'ont pas eu de PS Vita, ils n'ont pas eu de DS, ils n'ont pas eu de Game Boy. Et là, il regarde un peu ce qui se passe à côté avec le ROG Ally, avec l'Asus, le Asus ROG Ally, le Steam Deck, avec toutes les consoles qui pullulent dans tous les sens. Alors, est-ce que c'est un souhait de mettre le Game Pass partout ? Est-ce qu'ils souhaitent faire leur propre hardware qui, je pense, sur ce filon-là, est un peu concurrentiel et compliqué pour eux de faire une Xbox portable, mais il y pense. Est-ce que ce serait pas une porte de sortie pour Xbox, justement? Parce qu'on voit bien que la Xbox Series XS ne se vend pas aussi bien qu'à ce qu'ils espéraient.
Ouais, c'est pas assez compliqué. Franchement, je trouve qu'avec leurs histoires de console portable, c'est compliqué. Mmh. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils confondent. Enfin, j'ai un peu de mal quand même avec ce concept-là. Autant, tu vois, je trouve que Nintendo avec leur Switch,
oui, c'est ce que j'allais dire.
Ça passe parce que ils ont aussi pensé toute leur ludothèque autour de ça. Avoir des jeux que tu peux avoir des courtes sessions, ça marche bien avec certains jeux de la Switch. Et t'as des jeux aussi avec des plus longues sessions. Ben voilà, la Switch s'est développée autour de ça. Prendre un format de console qui existe comme la PS5, la Xbox, c'est-à-dire part sur du portable avec des gros jeux, je sais pas. Et d'un autre côté, t'as le Steam Deck, et je me demande si on peut se prendre frontalement le Steam Deck en concurrence. Et j'ai envie de te dire, le Steam Deck, ben c'est quand même un truc super chouette, quoi, qui marche super bien.
C'est sûr, ils voient ça, et puis ils voient bien qu'ils n'arrivent pas à lutter contre la PS5 en termes de vente et de parc installé.
Ça coûte le prix d'une Xbox, surtout un Steam Deck ou d'une PS5.
Qu'est-ce qu'ils essaieraient d'aller sur ce filon-là, ouais, avec éventuellement un dock pour la connecter sur une télé en HDMI comme fait le Steam Deck. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils y pensent juste ? Est-ce que c'est pour cette génération-là, la prochaine ? De toute façon, et c'est ce qui est sûr, c'est qu'on aura un hardware Xbox fin d'année. Phil Spencer l'a annoncé, à moins que les plans changent d'ici là. Mais rendez-vous d'ici, parce que si ça sort fin d'année, autant vous dire qu'on aura des infos dans pas très longtemps. Avec les Game Awards, ça va arriver à ce moment-là, je pense. Est-ce qu'on va avoir une Xbox Series full digital ou pas, une Xbox portable hybride?
Non, mais là je pense qu'il faut se concentrer sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire le Game Pass. Il y a peut-être des choses à revoir là, comme on a pu en parler avant, et leur console physique. Je sais pas, hein, je me trompe peut-être, je suis pas dans les courbes et les chiffres de chez Sony et de chez Microsoft, mais ils, pour l'instant, faire un hardware complètement détaché comme une PSP, ça demande un line-up, ça demande, c'est pas juste tu prends ta PS5 et tu mets une manette autour de ta console avec un écran par-dessus et tu la transportes partout. C'est pas aussi simple.
Ah, mais c'est clair, je suis bien d'accord. Mais est-ce que ce serait pas une porte de sortie pour eux pour justement se différencier de la concurrence?
Bah, eux, ils ont encore peut-être l'intelligence, quelque part, d'avoir imposé un hardware moins puissant avec la Xbox Series S, ça va être plus facile à rendre portable. Mais même là, je me dis, il y a quand même un sacré taf, on n'a pas la technologie encore aujourd'hui pour faire ça, quoi.
Bon, avoir pour Xbox.
Et il parlait déjà il y a plusieurs années d'une application qui permettait de downgrader, etc. facilement.
Ouais, avec l'IA, bah, c'est ce que fait le DLSS concrètement. Il downgrade.
Ah, bienvenue au point tech.
Ah, ça c'est la machine qui fait ping.
Tu trouves pas ça glucose ?
C'est glucose. Bon, on y touche un petit peu, effectivement.
Ouais. Donc, et puis, tu as la possibilité de faire, pour ceux qui ont des grosses connexions, du streaming. Mais bon, là, on n'est plus dans la console portable. Donc, mais oui, le DLSS, c'est concrètement une des solutions proposées. Aujourd'hui, les socs qu'on utilise aujourd'hui sur les Xbox et les PlayStation, c'est des socs ATI qui, malheureusement, ne sont pas performants puisque c'est du FSR. Et le FSR...
Effectivement, la CTEC.
Le FSR, comparativement au DLSS est beaucoup moins efficient d'une part et surtout le rendu est moins bon donc
je pense dans que... l'oreillette oui on a perdu la moitié de l'audience d'accord j'entends
non mais c'est intéressant parce que là
je te taquine
l'encéphalogramme est plat.
Bon ouais, c'est bon, je passe à autre chose, j'ai compris bande de non-geekos
ce gag. Mais non, mais je te...
Exactement.
Et puis chez nous, il n'y a que toi qui est à ce point-là. Donc...
Mais si, Barbe, il connaît, il fait semblant, mais il connaît très bien Barbe.
Et des initiales aléatoires que j'ai entendues que je ne connaissais pas.
Le FSR, c'est le...
Non, ne repars pas, reviens.
Et vas-y, Barbe, parle-nous de la PS5 Pro et de ses 30 teraflops.
Oui, voilà. Alors, on est sur effectivement une rumeur qui devient de moins en moins une rumeur. Puisqu'il y a des traces quand même qui concordent de plein de sources différentes. Effectivement, il y avait un leak il y a quelques temps. Et maintenant, on a carrément une date de sortie potentielle en septembre 2024 pour la PS5 Pro. Effectivement, du teraflop en veux-tu, en voilà, prévu pour faire fonctionner sur du 4K Ultra HD ou des TV 8K aussi. Ils mettent le paquet, on dirait, mais ça reste la rumeur.
Ouais, et je vais en profiter quand même pour dire, parce que là, c'est dans le genre rumeur, c'est une rumeur qui est quasiment sûre, oui. C'est que ATI a voulu présenter la nouvelle version de leur FSR sur leur dernier chipset RNDA. Donc, c'est le socket RNDA, donc ils étaient sur la version 2, je crois, sur la PS5 et la Xbox, et là, on va être sur la version 4, bon, peu importe, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est de se dire, c'est que sur cette nouvelle version, en tout cas du socket, ils vont intégrer du FSR non plus software, mais qui va être hardware et qui va utiliser du coup l'IA, comme le fait Nvidia sur leur RTX. Et ça va changer quand même pas mal de choses. Ça va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus efficient en termes de upscaling et downscaling et upscaling. En gros, on calcule l'image sur une basse résolution et après l'IA va retravailler l'image pour l'afficher en haute résolution. Donc, ça, en termes de calcul, c'est moins gourmand, mais ça va encore même plus loin, c'est qu'elle va faire de l'élimination quelque part la carte graphique en devinant les frames qui ne sont pas encore calculés. En disant, ah bah tiens, si avec son IA, si on a eu telle frame l'avant, il y a de fortes chances que la frame d'après, l'image soit comme ça. Et comme ça, en fait, elle gagne du temps de calcul et on peut afficher beaucoup plus d'images par seconde. Ce qui va permettre en fait à cette console d'afficher plus facilement du 4K, mais aussi de pouvoir tenir les 60 FPS en 4K. Qui n'était pas du tout possible avec les anciennes versions de chipset de chez ATI, puisqu'il n'y avait pas du tout ces mécaniques intégrées dans la puce.
Mais justement, ces FPS stables, à côté, là, on a déjà des studios qui ont reçu les assets pour avoir leur jeu certifié PS5 Pro, comme à l'époque, on avait les jeux certifiés PS4 Pro. Il y a certains prérequis, dont un des prérequis, c'est de faire tourner le jeu à 60 FPS. Stable. Donc, pas de descente, pas de montée, voilà, quelque chose de stable. Donc ça, c'est déjà un des prérequis. Donc oui, c'est FPS, ça en parle. Et tout à l'heure, quand je parlais des 30 teraflops, hein, c'est toujours des trucs un peu qui font, un peu rire. Là, on a des chiffres qui arrivent. Ils nous disent que le GPU aurait une puissance accrue de 45% par rapport à la PS5, que la RAM serait 25% plus rapide. On a déjà des chiffres qui circulent, donc on a déjà des données.
Ouais, alors faut faire attention à ces genres de chiffres-là, parce que 30 teraflops comme ça, alors qu'on était à 10 teraflops, ça paraît énorme. Ouais. On triple la puissance et tout ça. Mais le fait de tripler la puissance ne va pas rendre les jeux trois fois plus beaux, parce qu'en fait, quand on passe d'une résolution 1080p en 4K, grosso modo, et ben on a 4 fois plus de choses à calculer. Donc, quelque part, en ayant 3 fois plus de puissance, on n'est même pas sûr d'obtenir quelque chose d'aussi beau que le 1080p en 4K. C'est là où je voulais en venir. Du coup, c'est là où je te dis, les mécanismes de FSR qui vont être intégrés en ces chipsets, c'est ça qui est le plus important, finalement. Ça va permettre de pouvoir démultiplier les possibilités de ces cartes graphiques-là et de rendre, d'avoir des rendus qui devraient être vraiment être du vrai 4K 60 FPS sur ces versions pro.
Et de toute façon, oui, comme tu dis, version pro. Il ne faut pas s'attendre à un gap énorme. Ce n'est pas une PS6.
Non, il n'y aura pas de cap graphique.
Ah,
il n'y aura
aucun cap graphique. Ce sera plus de stabilité, quelques jeux peut-être un peu mieux optimisés, une PS5 Pro. Voilà, ça va pas être
non plus. Ça sera le vrai 4K 60 FPS que tu attends depuis longtemps. Ça sera
pas un meilleur ray tracing.
Ouais, il y aura du. Ouais, alors ça, pareil, le ray tracing, ATI part de loin. Hein, donc, il y aura enfin du ray tracing natif. Et. Voilà, il faut espérer vraiment que ces technologies-là embarquées soient correctement exploitées. Parce que, en fait, c'est que de l'annonce pour l'instant, ces cartes graphiques n'ont jamais été testées. À ce jour.
Le truc ouf, c'est qu'ils pouvaient faire tourner du rétro PlayStation là-dessus avec leur modèle de PSSR.
Nvidia le fait aujourd'hui, c'est ça qui est dingue. C'est tu files un vieux jeu à Nvidia à un outil Nvidia, il est capable de t'appliquer du ray tracing et je sais plus quoi dessus.
Embellir.
Et ça te le rend complètement fou. Il y a eu Quake 2, ils montraient à un moment donné. Quake 2 ressemblait plus du tout au Quake 2 qu'on avait en 1998. Donc,
oui. Enfin, là, on parle de Sony. C'est-à-dire les jeux PS1, PS2, ils vont les mettre via leur PS Plus palier et sans premium, je sais pas quoi, en version basique avec éventuellement plus de FPS. Mais ils vont pas. S'ils doivent refaire un jeu, ils feront un remake ou un remaster, comme tout le monde.
On pourrait imaginer d'avoir des filtres ATI qui font. Parce que je crois qu'il y a un nouveau nom là qu'ils ont dit. C'est PlayStation haute fidélité ou un truc comme ça. Il va y avoir une sorte de label ou de technologie appliquée à la console. Alors ça, c'est pareil, c'est de l'ordre de la rumeur. Mais cette technologie viendrait normalement embellir les jeux existants. Donc,
Le PSSR, c'est le PlayStation Special Super Resolution.
Voilà, exactement, merci.
Waouh, ça y est, on a recruté quelqu'un qui parle anglais. Wow.
Thank you.
Ouais, bah, il est à la frontière, hein, c'est pour ça.
pas celle-là.
C'est vrai. Ouais, il y a des flamands quand même, les flamands parlent un peu en... Bon, bref, passons. On va pas faire les accents flamands.
Le design de la PS5 Pro, plus petit, okay. Carré.
Désolé, je vous avais perdu, désolé.
Merci. Je dis, ça m'a habitué. Le FSSR, le PSSR, ça sera du coup normalement une techno qui va être là pour améliorer la qualité graphique des jeux plus anciens. Est-ce qu'on l'aura sur les très vieux jeux? Ça, on peut espérer quand même. Moi, je sais pas.
Ce serait bien. Ce serait bien. Est-ce qu'on l'aura? Je ne sais pas. Ce serait bien de l'avoir. Et à votre avis, cette PS5 Pro, en termes de design, de graphisme, est-ce qu'ils vont changer drastiquement cette forme massive?
Alors on n'a pas de nouvelles d'une nouvelle manette, en tout cas. Après, pour le design en lui-même...
Pour la DualSense, ils vont la garder.
On a toujours des suppositions, rien n'est confirmé. Donc...
Non, il y avait des suppositions de nouvelles manettes, j'avais vu aussi. Hein, il y avait...
Ah oui.
Oui, alors peut-être pas redesign des manettes, mais une nouvelle version des manettes. Il y avait du drifting sur et des trucs qui pétaient, il y avait quand même des gros défauts de conception. Peut-être qu'il y a une V2 effectivement plus solide de la manette.
Ah, ils vont faire une DualSense trident, comme la N64.
Ouais.
Ce serait beau. Hein.
Oui, ils vont faire une copie de la manette de la GameCube, ça serait une bonne idée.
Il y a du monde, ça. et en termes de prix, parce que là, la PS5 Slim, on est en prix constructeur à 550, je crois. Une PS5 Pro à quoi?
Dans les plus basses estimations, on parle là-dessus aussi.
620.
Mais comme ça reste que d'estimation, de toute façon.
Moi, je pense que ça sera autour des 1000, hein. Honnêtement, vu ce qu'ils vous ont prévu de mettre dedans.
Au moins ça.
Bah, aujourd'hui, tu regardes, rien que le prix d'une carte graphique avec la technologie embarquée, t'en sais quelque chose. C'est minimum 800 balles. Donc,
et ils vont pas te sortir une PS5 Slim à 550 et une PS5 Pro à 1000 balles. Non, grand max, moi j'irais 700 balles.
Et vous, cher auditeur, voulez pas nous pondre des designs de PS5 Pro via les IA?
C'est pas rigolo ça.
Ouais, tu peux te faire ça avec des gommettes si tu veux. Je prends des designs de PS5 avec des gommettes avec ma fille tous les jours. Paf, paf.
Ben voilà.
Alors 700 euros, je pense qu'ils iront pas au-dessus, ou alors ça me paraîtrait un énorme gap entre une Slim et une Pro. Parce que je vais chercher le prix de la PS4 et le prix de la PS4 Pro à l'époque, vous avez ça en tête?
On devait être autour des 700, je crois, ou 690. Ah, j'ai un doute, 599 peut-être.
Tu parles d'énorme gap, il est pas si gros que ça. Hein.
Non, pas du tout. Aujourd'hui, elle est toujours à 500 balles, hein, la PS4 Pro.
PS4, à sa sortie, on était à 400 euros. Et la PS4 Pro, on était à 470, apparemment. 100. Pas un énorme gap. À fois confirmé. Hein. J'ai fait googliser. Donc, il n'y a pas un énorme gap. Donc, on passera pas. Enfin, on verra. Hein, mais si c'est dans 1000 euros, ça me paraîtrait vraiment extrêmement intriguant. Mais ouais, 700 euros, 730 euros, je pense qu'ils iront. Je pense qu'on peut s'attendre à ça au maximum, à mon avis.
On verra.
Après, j'entends
moi, je suis convaincu qu'on peut pas tout être en dessous de 700 euros, c'est pas imaginable aujourd'hui. C'est vraiment pas imaginable, surtout quand on a vu ce qu'ils ont fait avec le casque VR2. Je serais pas étonné qu'ils arrivent avec un gros prix. Alors peut-être pas qu'ils vont atteindre les 1000 euros parce qu'il y a un prix psychologique, mais on sera peut-être vers 900, tu verras. Je serais pas étonné.
Bon. Peut-être qu'il faudra louer la PlayStation 5 à moi, ça sera cher.
Ouais. C'est ça.
Ou peut-être faire acheter un PC, ça sera mieux.
Abonnement pour avoir la console, pour jouer.
Au bout d'un moment, ouais.
Durant la console.
Yes. Bon, écoutez, on vous redira ça quand on aura les infos, parce que c'est de la rumeur. Et on va passer directement aux actus en vrac, parce qu'il n'y a pas de coup de gueule cette semaine, et pas de sujet des auditeurs. Ils émerdillent pour les actus en vrac.
Pour une poignée de gamers, le podcast.
Les actus en vrac. Et on commence toujours par quoi, messieurs?
Le sel.
Sel. Ah, Barbe, c'est ton premier sel que tu vas vivre en direct.
Oui, je suis impatient.
Le sel. Tu m'étonnes. Tout le monde t'envie. Hein. Donc, c'est les meilleures ventes physiques en France d'il y a 15 jours, donc de la semaine 12. Donc c'est 5 jeux sur console de salon, Switch, PS4, PS5. Et je vous ai fait une petite phrase avec des indices pour vous faire deviner quels sont ces 5 jeux. Alors, je précise, la phrase concerne 4 jeux, parce que le 5e, je peux réussir à le mettre dedans, on le verra après. Donc, ma phrase pour ces 4 jeux du CL semaine 12, c'est « Il faut trancher la pêche pour la donner à un dragon dans le noir ».
Skull and Bones.
Non, toujours pas.
Je crois que j'en ai un.
Peu importe ce que j'aurais dit, t'aurais dit Skull and Bones.
Alone in the Dark.
Oui.
Ah merde. Non, joué, moi, je l'ai dit très sérieusement, Skull and Bones. Avec la pêche, je sais pas pourquoi.
Ah non, il faut trancher la pêche. Dragon's Dogma. Le donner à un dragon, c'est le dragon. Dans le noir, c'est Alone in the Dark.
Et je suis mort en énigme.
Il vous manque 2 jeux pour trancher la pêche.
Bah, Final Fantasy VII, Rebirth peut-être. Non, quand même, non, mais toujours pas. Allé.
Non, pas cette semaine.
La pêche. Il y a un côté coquin.
Il y a un indice. Ah bah voilà. Mais, vous voyez, Mr Bordeaux, vous a donné les deux bonnes réponses dans le chat.
Mario Kart 8, sûrement.
Non.
La Peach.
Princess Peach Showtime. C'est la pêche.
Ah oui. Ah, et Rise of Ronin peut-être.
Et voilà, Rise of the Ronin. Oh. Alors. Trancher la pêche, donc trancher, c'est Rise of the Ronin, qui est un jeu de samouraï. La pêche, Peach Showtime. Pour donner à un dragon, c'est Dragon's Dogma 2. Et dans le noir, c'est bien vu Alone in the Dark, que je pensais que vous n'auriez pas trouvé Alone in the Dark.
Oh, c'est le premier que j'ai trouvé.
Ça fait 4 jeux, il en manque un.
Et là, il n'y a pas
d'indice. Mario Kart 8.
Non, c'est un jeu... Alors là, il s'est... dans le sel, il est vendu en cinquième sur PS5. Mais il n'est pas que sur PS5.
Ah.
Ah. Un jeu qui n'est pas que
sur PS5. Il est sur PS4, il est sur Xbox. Je crois qu'il est sur Switch aussi.
Un jeu qui a eu du succès, qui est sur PS4 et PS5. Il est récent, ce jeu ? FIFA ?
FIFA, voilà.
Ah, FIFA, ok.
EA Sport FC 24. Toujours là. Je ne savais pas où le mettre dans la phrase. Ça n'avait pas trop
ouais,
de sens.
Moi non plus. Un bon jeu de foot, quoi. Okay.
Voilà, un jeu de foot. Donc, Princess Peach Showtime premier. Pour, quand même, il se vend très bien. Rise of the Ronin deuxième. Très bonne sortie. Dragon's Dogma 2 qui cartonne dans les ventes, qui est troisième. Alone in the Dark en quatrième. Et EA Sport FC 24 en cinquième. Et c'est que des jeux PS5 sauf Princess Peach Showtime dans ce que je vous ai donné. Okay. Voilà pour le sel de la semaine 12.
Et ben, je vais pouvoir enchaîner sur l'actu. Sur mes petites actus. Il y avait pas mal d'actu quand même cette semaine, de petites actus. Donc je vais commencer avec No Man's Skies, qui nous gratifie encore d'une mise à jour, qui fait aussi un petit coup de coude pas très sympa à un certain Starfield. En proposant une mise à jour qui permet d'une part de pouvoir modifier son vaisseau, mais également de créer son propre verso en personnalisant avec plein de modules qu'on peut trouver dans le jeu, ce qui va pouvoir démultiplier les vaisseaux qu'on va pouvoir piloter. Le jeu ajoute également une mise à jour qui va rendre les stations spatiales procédurales en proposant plein de nouveaux types de décors. Bon, voilà, puis plein de petits ajouts annexes en plus de tout ça. Mais voilà en gros ce que propose cette nouvelle mise à jour de No Man's Sky. Tu as joué toi récemment, Barb, je crois, à No Man's Sky ?
Pas à cette extension, j'avais joué à la précédente.
Ok.
J'avais fait saison pour débloquer un petit peu de contenu et tout. Je m'étais bien amusé malgré ma résolution proche du sol. Mais c'était assez cool d'aller visiter toujours les univers procéduraux, etc. de No Man's Sky.
Et bien voilà. Yes.
Oh, je peux parler en vitesse d'un mode qui a été annoncé pour Valheim, qui permet de faire de changer complètement le jeu et d'en faire une version RPG solo.
D'accord.
C'est et pourquoi pas.
Plutôt que de survie, et donc il y a des PNJ à pléthore, etc. Il y a une petite histoire et tout. Et juste quelques-uns se sont amusés à faire des modes comme ça. Ça pourrait être intéressant à tester.
Alors que le jeu n'est toujours pas terminé, hein, rappelons-le, mais et il continue de le mettre à jour et de proposer plein de nouvelles choses sur le jeu. Ouais, c'est chouette.
Et c'est tout pour moi.
Ouais, et c'est avec Barbe que j'avais joué longuement sur Valheim à l'époque.
Longuement, oui. Moi.
Oh, quoi.
Ça n'a pas paru si long que ça.
Ouais, ça a paru quand même assez long.
Et mais c'est le temps passé avec toi, Gabran, c'est pour ça. Ça passe,
ça passe toujours très bon. Ouais, c'est... je confirme.
Le PS Plus du mois d'avril vient de popper. On a les jeux du palier essentiel, donc le premier palier est extra, donc le deuxième palier qui vient d'arriver. Alors, le palier essentiel, on a trois jeux offerts. Enfin, c'est Immortals of Aveum.
C'est pas hyper tôt.
Il est sorti il y a très très peu de temps, lui.
Ouais, bah voilà.
Pour dire,
c'est pas du day one, mais presque là on est.
Dans le AVM, il est sorti.
Ça permet de voir que je suis pas à jour parce que je connais aucun des titres. Donc
non, mais je te rassure, le jeu est complètement passé inaperçu. Quoi. Il y a Electronic Arts qui avait fait un peu de bruit 2 ou 3 mois avant sa sortie. Le jeu, il s'est chopé des 7 sur 10 partout et puis personne n'y a joué, quoi.
Et puis vite la promo, et puis là ben, on en revient au sujet de tout à l'heure, il compte sur les services d'abonnement pour se refaire la poire. Mm. C'est l'expression, vous m'aurez compris. Donc Immortals of Aveum, un autre jeu hein, qui a besoin de ça, c'est Minecraft Legends, le dernier jeu de chez Mojang, qui avait fait un énorme flop à sa sortie. On l'avait essayé en un soirée PPG, on y a joué une seule fois parce que vraiment aucun intérêt, il n'y a pas que nous qui le pensions, le jeu n'a pas très marché.
Il ne devait pas fermer les serveurs à un moment donné.
Et si, c'est ce que j'avais vu aussi. Ou peut-être, non, c'était pas fermer les serveurs, c'était limité, ou je ne sais plus comment il devait faire. Mais pour qu'il arrive dans le PS Plus, c'est que les serveurs sont encore là, enfin j'espère. Parce que s'il nous annonce que les serveurs ferment, c'est un peu bizarre.
Ouais, effectivement, ouais. Pas.
Immortals of Aveum, Minecraft Legends et Skull the Hero Slayer. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, je suis désolé. C'est peut-être très bien. Mais c'est dans le PS Plus du mois. Et par contre, dans le palier extra, on a un peu plus de qualité. Monte d'un palier, si je peux dire. On a Dave the Diver. Scal, tu nous écoutes, que tu voulais le faire. Je ne sais pas si tu l'as acheté ou si tu ne l'as pas acheté. Est-ce que tu as un abonnement PS Plus extra? Dans ce cas-là, tu l'auras au mois d'avril. Dave the Diver, le jeu indépendant qui a été pas mal récompensé, bien reconnu. Et un autre que j'ai vu passer, c'est Tales of...
Et Dave the Diver avec l'extension Godzilla, je crois, qui plus est. Hein.
Ah, ça, je n'avais pas vu. On peut pêcher Godzilla?
Eh oui, puisque dans le PlayStation Showcase, ils avaient montré Dave the Diver avec Godzilla en... Tu te souviens pas?
Non, ça m'a pas marqué.
Avec la musique de Godzilla, ah, si, c'était marquant quand même. Bon.
Ah, bah écoute, carrément, pourquoi pas. Ça, et l'autre, c'est Tales of Kenzara Zoo. Alors, je vois tout de suite, c'est pas un Tales of. Hein. C'est pas un Tales of Symphonia, Berseria, ce que vous voulez. C'est un jeu à part. Alors, c'est un jeu d'action-aventure en scrolling horizontal. Est-ce qu'il y a des composantes Metroidvania? Je ne sais pas. Mais quand je vois le jeu, il est très dynamique, très sympa. Alors dans le système du jeu, ça rappelle beaucoup ce qu'on a vu dernièrement avec Prince of Persia, le dernier de chez Ubisoft.
Ouais, surtout qu'il s'inspire énormément de la mythologie africaine, enfin, si on peut parler mythologie, je ne sais pas si on appelle ça vraiment la mythologie, mais tout ce qui est culture africaine, et ce qui est assez rare en fait. Tout
parce que le héros, je crois que c'est un genre de marabout qui en fait veut invoquer les démons de l'enfer pour ressusciter son père. Qui part dans une quête pour acquérir ces choses-là. J'ai vu un peu de gameplay tout à l'heure, ça a l'air super sympa, très dynamique, assez joli. Moi, c'est le genre de jeu que j'accroche bien. Et en plus, ça a des prix intéressants, parce que je crois qu'il est au prix de seulement 20€ sur Steam.
Ouais, non, c'est correct.
Et je suis sur la page, Youp, il est à 19,99€.
Donc, mais de toute façon, c'est des jeux qui ont besoin de visibilité, puisque aujourd'hui, les sorties se font étouffer.
C'est ça. Mais là, ça a l'air vraiment super sympa. Très joli, très dynamique. Donc, à voir à sa sortie. Je crois que ça sort là dans le PS Plus du mois. Donc,
Dans les phases de dialogue, ça fait très Prince of Persia, etc. aussi.
Yes, il sort le 23 avril.
Bien.
Il y aura un accès anticipé via le PS Plus.
De mon côté, des nouvelles de chez Sega. Sega qui perd sa petite relique, ou plutôt son studio relique, puisque les Canadiens de Relic Entertainment ont décidé de quitter Sega, car les choses ne leur plaisaient pas au niveau de la gestion ces derniers temps. Alors, pour rappel, Relic Entertainment, c'est eux qui sont à l'origine des derniers Homeworld qui sont sortis, de Company of Heroes, ou bien des Dawn of Wars, pour ceux qui... Bah, Dawn of Wars, si, c'est assez connu, c'est la version... Warhammer 40 000 en mode jeu de stratégie qui avait très très bien marché dans les années 2000. Donc pour plein de raisons ils ont souhaité quitter Sega, mais essentiellement pour des prises de décision dernièrement qui ne leur convenaient pas. Et ça prend un petit peu aussi cette nouvelle tendance des studios à vouloir reprendre leur indépendance quand c'est possible pour éviter les vagues de licenciements qui sont de vigueur en ce moment dans le milieu du jeu vidéo. Voilà.
Vous les comprendre.
Ils avaient déjà subi 121 licenciements l'an dernier. J'aurais dû le préciser.
Arrêtez l'hémorragie.
Okay. Ouais.
On va parler un peu de Nine Sols. Ce jeu, on avait parlé ici il y a un an et demi. Ça nous avait pas mal intrigué. Genre de Metroidvania avec des composantes un peu de Souls, de Sekiro, des Perfect Paris, des déviations. Donc à l'île de monde, le Metroidvania et ça a l'air pareil. On est en scrolling horizontal, c'est pareil comme Tales of Kenzara. Ça a l'air très sympa. En 2022, il y avait eu un financement participatif qui a eu un gros succès. Et donc là, le jeu a été annoncé, il sort ce 29 mai sur PC. Donc c'est... Super, le système de jeu a l'air super dynamique, c'est très très beau, j'adore la DA. Ce 29 mai, Nine Sols, je pense qu'on en parlera très fortement dans la sortie des chroniqueurs quand le moment sera venu. Mais moi, je vais le trouver de très très près, ce Nine Sols.
Moi, de mon côté, une très très bonne nouvelle que j'ai vue passer de façon complètement furtive. Si je vous dis Flagship Game Studio, vous allez me dire, vous connaissez pas, tout à fait normal. C'est un studio qui a été... Ouais, il y a peut-être un peu cette idée-là. C'est un studio qui a été créé à l'époque par d'anciens de Blizzard qui ont quitté Blizzard North à la fin du développement de Diablo 2 pour créer leur propre studio et pour développer leur propre jeu. Ils ont développé ainsi plusieurs jeux qui ont été Mythos et surtout Agent London, qui sont deux jeux qui n'ont pas eu un grand succès, en tout cas à l'époque. Puisque Hellgate London a eu une seconde vie suite au rachat par un studio coréen qui l'a réexploité en mode free-to-play et qui a eu un certain succès en Asie. Ce qui, en fait, aujourd'hui, permet à cette licence de pouvoir renaître de ses cendres et de pouvoir nous proposer, de mettre en développement du coup un nouveau jeu de cette franchise-là qui va s'appeler Hellgate Redemption, qui sera du coup un triple A dans la pure lignée de ce que pouvait être Hellgate London. Donc pour rappel, Hellgate London, c'était finalement un Diablo-like. C'est comme ça qu'on les nommait à l'époque, avant de les nommer Hack and Slash. Avec la philosophie de pouvoir permettre de jouer aussi bien des classes de corps à corps vu troisième personne, ou des classes à distance façon FPS. Chose qui s'est vachement démocratisée par la suite avec des jeux tels que Destiny ou bien Borderlands. Voilà, donc on apprend du coup le développement d'Hellgate Redemption.
Yes. Une dernière news pour moi, pour les audiophiles qui sont équipés d'une platine vinyle. On a le jeu Hades, premier nom, qui vient d'annoncer que sa bande son allait sortir sur un coffret vinyle à la fin d'année. La bande du jeu a toujours été pas mal récompensée. Donc là, elle arrive en vinyle au prix de 150€. Oui, c'était pas donné, mais c'était toujours un bel objet avec quelques artworks à l'intérieur de la pochette, les vinyles. Et on a des petites colonnes de temples qui accompagnent ça. Donc, un bel objet. Et pour ceux qui sont équipés, qui adorent cette musique-là et qui adorent la musique d'ADS, c'est toujours une bonne chose.
Alors en plus, je tiens à signaler que dans un des stéréo PPG, on a parlé de son... parce que Supergiant Games travaille toujours avec les mêmes personnes à la composition. C'est Darren Korb qui a composé toutes les OST de chez Supergiant Games. Il fait un travail de fou furieux. Il y a des chansons qui sont super jolies, des morceaux qui sont très... Enfin, c'est comment on dit ça ? C'est des morceaux très... pas déprimant, mais voilà, on sent que y a un lourd passif, mélancolique, merci. Des morceaux très mélancoliques, avec des mélodies toujours très très jolies. J'aime énormément le boulot qu'il a fait, en tout cas sur Bastion entre autres, mais sur Transistor. J'ai moins joué à Hades, donc j'ai moins de souvenirs dessus, mais je sais que voilà, tous les OST que j'ai pu écouter de lui ont été superbes. Et puis récemment, j'ai mis aussi en ligne, pour les 10 ans de Supergiant Games, il y a eu un concert-événement avec Darren Korb entre autres, où tous les morceaux sont joués avec un orchestre philharmonique, mais aussi Darren Korb à la guitare. Donc, à voir, c'est vraiment très très chouette.
Carrément. Donc, c'est précommandable sur le site de la Fnac, chez Micromania et sur Just for Games. Ça contient 4 vinyles pour 150€. On n'a pas encore de date, c'est fin d'année. Quand on aura la date définitive, on vous en reparlera ici. Voilà, Hades et ses vinyles.
Parfait. Et moi, pareil, dernière petite news, mais pas des moindres, puisque c'est un peu la news qui fera peut-être le lien avec la semaine prochaine. On apprend qu'Embrasseur vient de vendre Gearbox à Take-Two Interactive pour 460 millions de dollars. Soit absolument rien, une bouchée de pain pour les studios de jeux vidéo, comparativement à il y a 2 ou 3 ans. Vous pouvez vendre un studio comme ça plusieurs milliards. Donc c'est marrant de voir que les studios de jeux vidéo ont perdu énormément de valeur en très peu de temps. Que dire sur Gearbox ? C'est les développeurs, entre autres, de Borderlands, et surtout de Borderlands, puisqu'ils ont fait d'autres jeux, mais comme Remnant from the Ashes, qui est quand même assez connu, ou Dead Island, enfin voilà. Ou Duck Nukem Comment il s'appelait ce Duck Nukem là, qui a mis 20 ans à sortir, j'ai plus son. Bon, il y a du bon et du moins bon, tout ça pour dire. Mais
c'est le Forever.
Ouais, Forever, merci. Et, mais en tout cas, voilà, ils ont été revendus pour une somme globalement faible à Take-Two. Donc, on verra ce que ça donne.
Surtout qu'il. Ouais, c'est pas énorme par rapport au passif du studio et ils ont été rachetés. Et derrière, on sait que, et comme il disait, le Borderlands 4 est en développement actif. Donc il est réel, il va arriver quand, je ne sais pas, mais ça a dû pencher dans la balance du rachat dans le montant. Donc un Borderlands 4, c'est quand même rien.
Oui, ça va bien se vendre, je pense, quand même. Hein. Borderlands 3 a été quand même globalement apprécié par les joueurs, même si il n'y avait pas de grosses nouveautés. Voilà. Bon.
Yes. C'est tout pour moi en actu en vrac. Est-ce que tu entends ta besace encore, Gab?
Non, c'est bon, j'ai fait le tournoi aussi. On peut passer aux sorties.
Et c'est parti.
C'est parti. Ouais.
Jingle.
Pour une poignée de gamers, le podcast.
La sortie des chroniqueurs, Gab, qu'est-ce que tu y as en sortie proche?
Là, c'est un méga gros coup de cœur que je vais vous proposer cette semaine. Que dire? Que dis-je? Un gros clin d'œil à un petit développeur avec qui on a pu avoir quelques relations, pour l'instant qui sont purement ou simplement écrites, hein, mais très amicales en tout cas. Le développeur de Terra Memoria, La Moutarde, que l'on salue très très chaleureusement. Donc Terra Memoria est sorti là cette semaine. Donc je rappelle, Terra Memoria, c'est un petit JRPG français en mode 2DHD, j'oserais dire, mais même si c'est,
oui, c'est très un peu joli. Le style
graphique, c'est très joli. C'est du pixel art avec un peu de 3D, très très joli, avec plein d'effets de lumière qui brillent. Enfin, je pense que vous voyez très bien de quoi quand je vous dis 2DHD. C'est le terme de chez Squaresoft, mais c'est pas tout à fait cette technologie-là qui est utilisée. J'ai dit Squaresoft.
Oui.
Square Enix, évidemment.
Bien sûr. Comme avec Octopath Traveler et autres, on a vu dernièrement.
Voilà, exactement. Et voilà, ce jeu est un petit bijou. Je pense que malheureusement, on n'en parle pas assez. Et je vous invite très fortement à aller le voir, surtout qu'il est proposé à 16,90€ sur Switch, sur PC, soit une bouchée de pain. Quoi, ça fait quoi? 3 Big Mac? Enfin, il faut vraiment. Voilà.
En fait, on peut peut-être en parler un peu plus que. Franck de chez La Moutarde est sur le Discord, on a parlé un peu avec lui. On devait faire une preview à ce jeu-là, on est désolé, on a des plannings qui sont extrêmement chargés chez PPG, on a eu beaucoup de mal à le faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un test du jeu qui sortira quand il sera arrivé. Mais on a tous, pas mal de chroniqueurs ont fait la démo, et je trouve ça super sympa dans la narration, dans l'environnement. Les personnages anthropomorphes.
On voulait faire une preview, ce qu'on ne fait absolument jamais, et qu'on n'a pas fait parce qu'on n'a pas eu le temps et qu'on n'avait pas à se réunir, mais le jeu mérite vraiment le détour. Vraiment.
Ouais, allez voir, il y a un système de combat en tour par tour, avec une composante de une petite timeline en bas. Enfin, je vous en dis pas trop, allez voir, la démo est sur Steam, Terra Memoria, c'est vraiment sympa.
Vous pouvez déjà vous faire une idée avec la démo. Là, c'est vrai que nous, on n'a pas encore fait le jeu, on peut pas vraiment dire ce qu'il vaut réellement aujourd'hui, mais c'est vrai que la démo est très prometteuse. Et ouais, au pire des cas, ça sera juste un petit jeu, un bon jeu sympa et pas trop cher, voire un très bon jeu comme Chain Echoes. Moi, j'y crois.
Ah, ça part bien, en tout cas, la démo part bien. Voilà, Terra Memoria, c'est sur quelle plateforme? Sur PC pour sûr? Est-ce que c'est ailleurs aussi?
Switch, PS5, bah toute la clique des consoles actuelles. Voilà, vous pouvez le trouver, y jouer. Faites-vous plaisir si vous avez 15 ou 16 euros à dépenser. Et n'avez pas à dépenser pour votre Big Mac.
C'est ça. Moi, j'ai fait la démo sur Steam. Par contre, le jeu, en définitive, je pense que je le ferai sur Switch.
C'est quand même, bah oui, la Switch est
tellement bien adaptée pour
ce genre
ça.
De jeu. C'est... Ouais, je suis ton avis.
Donc, ouais, Terra Memoria, yes. Et moi Pas d'un autre jeu, je suis sûr que vous l'avez pas vu venir celui-là. Un jeu de chez Huge Golf Studio qui sort. Qui arrive bientôt sur Steam. Non, c'est. Attention. Turbo Golf Racing.
Ah non.
Il est déjà sorti, mais là... et là, en fait, il va arriver sur console. Et ça, moi, je pense que c'est un jeu, j'en parle ici surtout, parce que je pense que ça peut être très sympa en soirée coop PPG. Comment vous expliquer le concept ? Vous êtes sur une map qui est un terrain de golf, avec des voitures qui ressemblent un petit peu à des voitures télécommandées, qu'on va dire un peu comme dans Rocket League. Vous avez une balle de golf devant vous et un parcours de golf devant vous. En fait, le but, c'est de soit faire passer la balle de golf le plus rapidement à la fin du parcours avant vos adversaires, et ça, ou le faire passer dans un anneau, et chaque compte tire. Donc, si vous faites un birdie en 4 coups ou un je ne sais plus le nom, en 2 coups. Et je trouve que le jeu peut être extrêmement sympa en multi, de faire ce jeu de golf où on joue en même temps à 3 ou 4 sur une piste, ça peut être un peu, comment dire, très très prenant, très sympa. Donc je vais regarder quand ça va arriver. Je vous ferai sûrement une petite annonce pour vous dire un jeudi dans le mois d'avril, on va se caler une soirée PPG pour tester ce jeu en coop, parce que je pense que ça peut être assez rigolo pour des situations vraiment rigolotes. Donc voilà, ouais, Turbo Golf Racing qui arrive sur console, je crois que c'est ce 4 mars, ce 4 avril, hein, quelque chose comme ça.
Mais, je te fais confiance. Hein, Moi, je t'avoue que là, le pitch, ça m'a pas plus emballé que ça. Hein. Je verrai toujours Diablo 4, des valeurs sûres.
Eh bien, j'enverrai le trailer dans le fil d'actu quand ce podcast sortira. Vous regarderez à quoi ça ressemble. Et puis, j'aviserai pour faire une petite soirée, un de ces quatre. Ça peut être bien rigolo. Turbo Golf
ouais,
et Racing.
Les images sont jolies.
Ouais, c'est chouette. C'est efficace. Écoute, ça a l'air assez cool. Ça arrive ce 4 avril sur PS5. Voilà ce que je veux dire. C'est déjà sur PC via Steam, mais ça arrive sur PS5.
Ok.
Et on peut jouer jusqu'à 7 joueurs en même temps.
Tant
voilà. Un jeu de golf. Toujours sympa, un jeu de golf.
J'ai rarement joué, à part celui sur la Wii.
Ah, Wii Sport, là ?
Sur Wii Sport, oui. J'ai une petite anecdote, si vous voulez, par rapport à ça.
Allez, vas-y.
Je m'étais embêté à réussir à lancer la balle sur Wii Sport. C'était déjà un challenge en soi.
sans casser la Wiimote.
Voilà. Il se trouve que plusieurs mois plus tard, je me suis retrouvé à une initiation de golf réelle, du coup. Et le gars, il m'a dit, mais vous avez déjà fait du golf, vous ? Je dis, non, jamais. Si, vous avez déjà fait du golf ? Bah, sur la Wii. C'était ma seule ref, et pourtant, ça marchait, quoi. Tellement c'est compliqué à manipuler. Le geste, du coup, était assuré et tout. Ça marchait bien. C'était rigolo.
Ça, c'est drôle. Ça, c'est bon. Vous avez fait du sport ? Ben non, mais si, montez-nous pas. Ouais, un petit peu sur la Switch, sur la Wii. tu avais le mouvement, déjà. Ça, c'est déjà une bonne chose.
C'est ça. Pour le swing, j'ai un beau swing. Le putter, je dis pas, mais le swing était réussi.
On a tous une histoire avec le golf. Yes. Donc, ce 4 avril, ça arrive très vite. Donc, la soirée coop ne devrait pas trop tarder à arriver. Je vous redis ça. Et c'est tout pour moi, parce que les sorties des jeux en avril, je trouve que c'est assez calme, et c'est pas un mal pour pouvoir faire les jeux dans le backlog.
Mais j'ai rien à ajouter non plus.
Bah voilà. Non, bah, des fois, faut pas... Voilà. Il y a un petit ventre mou là dans les sorties de jeux vidéo, on va pas se plaindre. Avec toutes les grosses sorties qu'il y a eu ces derniers temps, pour ceux qui veulent les faire et s'amuser, c'est un petit moment qui permet de... souffler un peu et se concentrer sur ce qu'on a à faire.
Exactement. Et bien, écoutez, monsieur.
Voilà, il y a FF7 Rebirth à terminer et je compte bien le terminer.
Il y a un petit test à faire derrière.
Ouais, tout à fait.
Alors, il est temps de se dire au revoir. Hein.
Tout à fait, moi. Ah, je ne sais pas faire un accent belge, c'est pas possible.
Je ne sais même pas.
Catastrophe.
Mais je vois que tu le tiens bien.
Bah forcément, hein, j'en ai autour de moi.
Et pas qu'une fois.
Et pas qu'une fois. Ils disent pas tant que ça, en fait.
Mais voilà, je sais, c'est une légende urbaine.
Par contre, vous savez pourquoi en France, on dit aller aux toilettes et à la Belgique, on dit aller à la toilette en Belgique ?
Vas-y.
Parce qu'en France, il faut en faire plusieurs pour retrouver un propre.
Et j'annonce à chaque actu avec Bert, vous aurez une petite blague à la fin.
Ah, j'essaierai.
À chaque podcast.
Ah, il faut savoir que j'espère que Nico va pas nous écouter parce que tous les Belges ne parlent pas comme ça. On a des amis belges, hein. Comment? Et vraiment, ils ne parlent pas comme ça. Veuillez nous excuser à tous les auditeurs belges.
Mais et Baf, je te prends un mot. Hein. À chaque podcast, je veux une petite blague à la fin. Belge,
j'essaierai,
pas belge.
Mais, je prends derrière, mais j'essaierai.
Allez, sur ça, messieurs, merci pour cette actu, mine de rien, assez conséquente. Et on se dit à dans deux semaines, en semaine 16, pour la prochaine actu JV.
Pour une poignée de gamers, le podcast.
Alors, faut savoir qu'avec le métamorphe en plus, des œufs, qu'est-ce qu'on en fait, hein. Métamorphe, comment expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une vaginette pour Pokémon.
Oh lolololol. Merci, messieurs, dames. Vaginette et sextoy, du coup, parce que tu peux avoir des. Ah, les femelles aussi.
Désolé, je suis en plus, ça le sert.